Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
...qui est demandé de chaque croyant. Je les répertorierai plus positivement que négativement, le mot zèle. Par exemple, dans Tite 2,14, c'est écrit que Jésus-Christ s'est donné lui-même afin de nous racheter de nos fautes, de toutes fautes, et de faire un peuple qui lui appartienne, zélé pour de belles œuvres. Dieu nous a rachetés, et une des raisons, c'est pour qu'on soit zélé pour lui. On voit aussi que c'est associé à la paresse, ou au contraire de la paresse. Dans Romains 12,8, c'est écrit que celui qui a le don d'encourager s'attache à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, que celui qui préside avec zèle. Ici, la présidence, c'était gérer administrativement les biens de l'Église. Dans Romains 12,11, c'est écrit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Donc, beaucoup de passages qui nous parlent de zèle. Alors, ça va être le thème de mon message ce matin. On est toujours dans Galates. Et les passages qu'on va couvrir dans Galates sont les versets, chapitre 4, verset 12 à chapitre 5, verset 3. Chapitre 4, 12 jusqu'à 5, 3. On ne lira pas tout ensemble. Je me fie que si vous voulez aller plus profondément dans ça, vous pourrez aller lire ces versets-là. Aujourd'hui, dans mon message, je vais parler de pourquoi est-ce qu'on perd notre zèle. De toute façon, le zèle, c'est pas la vie chrétienne, c'est pas une ligne droite, c'est pas comme hey, j'ai accepté le Seigneur depuis ce temps-là, je suis zélé. Fait que peut-être que vous êtes dans une saison de votre vie où vous êtes plus dans un hiver spirituel que dans une genre un printemps où ce que là tous les bourgeons sortent là, tu sais. On a différentes saisons dans notre vie, puis on a besoin de des fois on a des périodes pas de fruits comme, tu sais. Mais on doit continuer à se consacrer. Puis en tout cas, on va voir ça ensemble. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, je ne suis pas une personne qui est tout le temps consacrée. C'est le problème du péché, c'est le problème du cœur humain. Dans Romains 3, c'est écrit que nul ne cherche continuellement Dieu. Fait que ça fait, on ne fait pas exception à ça à cause du péché. Donc, pourquoi est-ce que tu as perdu ton zèle à un certain moment? Pourquoi j'ai perdu mon zèle? C'est quoi la différence entre un zèle qui vient de Dieu et un zèle qui vient de la chair? Je pense que dans mon message, on va être capable de voir aussi qu'on est tous au service de quelque chose ou de quelqu'un. Tout le monde. Tout le monde sur la terre est au service de quelqu'un ou de quelque chose. Si j'ai perdu mon zèle, comment est-ce que je peux le retrouver aussi? Donc, on va commencer au chapitre 3, versets 3 à 5 de Galates. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage à tourner là. Puis on va prier. Seigneur éternel, grand Dieu, tu es digne, Seigneur Dieu, qu'on puisse se rassembler ensemble pour écouter ta parole, Seigneur. Tu es digne qu'on arrête ce qu'on fait et qu'on se consacre à ta parole, Seigneur. Tu as dit, Seigneur Dieu, à Marthe et Marie, tu as dit, Marie a choisi la bonne part et cela ne lui sera pas enlevé. Et pourtant, Marthe se consacrait à faire un souper. Marie se consacrait à écouter la parole. Et tu as dit qu'elle a servi, Seigneur Dieu, lorsqu'elle écoutait la parole de Dieu. Ce matin, Seigneur, déjà qu'on a choisi de venir à l'Église plutôt que de rester chez soi, nous montre, Seigneur, d'une certaine manière que les frères et sœurs veulent se consacrer à ta parole, Seigneur. Je te prie de recevoir ce temps-là, Seigneur Dieu, puis qu'on puisse en bénéficier. Au nom de Jésus, amen. Chapitre 3, versets 3 à 5, on avait déjà prêché là-dessus, mais je vais quand même revenir. Paul avait dit aux Galates, « Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ici, quand on regarde le livre aux Galates, on s'aperçoit qu'une des raisons pourquoi une personne perd sa ferveur, les Galates avaient commencé par le Saint-Esprit puis ils continuaient par la chair, c'est qu'ils avaient réduit leur relation avec Dieu à seulement un aspect qui était que Dieu est un roi, puis il a le droit d'être obéi. C'est une part de la vérité, mais ce n'est pas juste ça, notre relation avec Dieu. Souvent, il y a des gens qui vont abandonner Dieu ou qui ne viendront pas à Dieu parce qu'ils pensent que le seul aspect de lui, c'est qu'on a des comptes à lui rendre. Mais il y a une autre grande vérité aussi qui est Dieu est un Père aimant et il désire une relation avec nous. Hein? Et ça, souvent, une personne perd son zèle parce que tout ce qu'elle voit de Dieu, c'est un Dieu qu'il faut que tu fasses ci, il faut que tu ne fasses pas ça. Puis c'est vrai qu'il y a des règles de vie dans le Seigneur. Mais il y a un aspect primordial de couvert à l'autre de la Bible, c'est que Dieu est un Père qui veut aimer et être aimé, qui veut donner son esprit, qui veut parler au travers de sa parole. Puis il dit, est-ce que c'est par les œuvres de la chair que vous avez reçu l'esprit ou c'est par en écoutant la prédication de la foi? Donc, Dieu, par la prédication de la foi, c'est qu'à un moment donné, les gens ont comme compris la bonne nouvelle que Dieu nous aimait et qu'il nous avait donné son Fils. Et par la prédication de la foi, ces hommes-là et ces femmes-là de l'Église de Galates avaient découvert l'amour que Dieu avait pour eux, qui est l'aspect primordial de l'Évangile. OK, donc, combien de gens ne sont pas allés pour Dieu parce qu'ils voient Dieu dans des exigences même qu'il n'a pas données? Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas allés pour Dieu? Parce qu'ils voient Dieu nous donner des exigences. Ils ne veulent pas faire ce que Dieu veut. Et la racine du problème, c'est qu'on est zélé pour autre chose. Le Larousse, il dit que le zèle, c'est une ardeur, un empressement au service de quelqu'un, d'une idée, une vive application à très bien faire son travail, faire un excès de zèle, Larousse va dire. Et donc, en guise d'introduction aujourd'hui dans mon message, je veux parler que le péché a comme essence pas nécessairement faire quelque chose de mal, mais ça peut être faire quelque chose excessivement bien. OK? Et c'est faire quelque chose, c'est de servir la créature au lieu du créateur. Et ça, c'est le problème de nous autres ici au Québec. C'est peut-être pas, nous, on n'est peut-être pas tentés d'aller vers la loi de Moïse, mais un autre problème qu'on a, c'est l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on se consacre à quelque chose d'autre qu'à Dieu. Hein? Et donc, l'essence du péché aujourd'hui n'est pas nécessairement de faire quelque chose de mal, mais c'est de servir un autre maître que notre Dieu. Dans Romains 1, quand Dieu il dit que les hommes sont pécheurs, quand il dit qu'ils sont inexcusables, il n'est pas en train de dire « Ah, c'est des gens qui font des perversions sexuelles, ce sont des gens qui vivent dans une vie dissolue. » Il dit « C'est des gens qui n'ont pas servi le Créateur, mais qu'ils ont servi la créature. » Moi, je suis la créature. Si je me sers moi-même, j'ai placé la créature avant le Créateur. Donc, l'essence du péché, ça peut être de faire quelque chose d'excessivement bien, d'être zélé pour quelque chose ou pour quelqu'un, sans que ce quelque chose ou ce quelqu'un-là soit le Créateur. Et c'est pour ça que Romains 1 dit que l'essence du péché, d'abord, qu'on n'a pas servi le Créateur, mais on a servi la créature. On va dire d'une personne qui ne veut pas se soumettre à son Créateur, ou même un chrétien, ça va être un chrétien, ou une personne libertaine, c'est une personne qui dit « je ne veux pas me faire dire quoi faire ». Mais l'autre question, donc la première question, combien de gens ne sont pas zélés pour Dieu? Puis l'autre question, c'est combien de gens sont zélés pour Dieu, mais de la mauvaise façon? Ce sont des gens qui font un grand tort au christianisme parce qu'ils présentent un Dieu, ils exagèrent sur les requis de Dieu. Paul, par exemple, dans Galates 1, verset 14, dans le même livre, il dit... Je ne sais pas si je vais l'avoir à l'écran. Oui, il dit « J'étais le plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. » on met des règles, on met toutes sortes de règles, puis qu'on dit, ah, Dieu va nous accepter, tu sais, si on fait ci, si on fait ça, etc. Il y a des gens qui vont exagérer. Et c'est correct qu'une personne dise qu'elle ne veut pas regarder la TV parce qu'elle perd son temps, mais si elle dit que Dieu dicte que pour plaire à Dieu, il ne faut pas regarder la télévision, la longueur des cheveux, les robes, la tenue vestimentaire, l'homme, à un moment donné, se fait des règles parce qu'il veut comme se sentir comme à la hauteur. Hein? Fait qu'il va se donner des règles. Il y a des chrétiens encore qui disent qu'on a reçu la grâce pour pouvoir obéir à la loi. Hein? Qu'on a reçu la grâce pour pouvoir faire la loi de Moïse. Tu sais? Et ils vont essayer de mettre en pratique toutes les règles de l'Ancien Testament sous la loi de Moïse. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir un zèle excessif. Ils vont exagérer, hein, comme le Larousse disait. Ils vont régir où Dieu ne régit pas. Et ils vont faire un grand tort aux premiers. Les premiers que j'ai mentionnés tantôt, c'est ceux qui ne veulent pas se consacrer à Dieu. Hein? Ben, l'autre, il arrive avec sa loi, puis lui, il arrive et il dit, « Garde, en plus, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » Et il fausse le vrai évangile. Quand dans la Bible, le vin est utilisé au sens figuré, c'est une fausse doctrine. Et la fausse doctrine est souvent mélangée dans un système d'œuvre où l'homme a besoin de faire quelque chose pour être présenté devant Dieu juste. Et ça vient fausser l'Évangile. D'ailleurs, Jésus disait dans Matthieu 23, verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui voudraient y entrer. » Pourquoi? Les pharisiens mettaient l'emphase sur une obéissance stricte à la loi de Moïse pour être acceptés de la part de Dieu. Il y avait du levain dans la pâte et ça a fait lever toute la pâte. Ailleurs, Jésus rentre dans le temple, puis tabarou, il fait le ménage, mon ami. Il se fait des fouettes, puis il chasse les vendeurs du temple, puis il vient vraiment faire du ménage. Et il dit dans Jean 2, 16, il l'a fait deux fois. Il l'a fait au début de son ministère, puis il l'a fait quelques jours avant de se faire crucifier. Dans Jean 2, 16, c'est la première fois qu'il l'a fait. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez ça d'ici, faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Et on faisait à croire aux gens que leur sacrifice n'était pas satisfaisant, que leurs animaux n'étaient pas assez purs, pas assez sans tâche. Alors, on leur vendait des animaux qu'on avait élevés à côté du temple, pas loin. Puis, on faisait de l'argent, on faisait de la business avec ça. Puis, on leur disait que Dieu n'était pas en accord avec eux, puis on faisait du commerce avec eux autres. Jésus, ça l'a mis en... parce qu'il avait dit, « La maison de mon Père, ça sera appelée une maison de prière pour les nations. » Donc, ces gens-là qui viennent mettre des standards, qui viennent mettre des lois supplémentaires à ce que Dieu nous dit qui est acceptable pour une personne, viennent faire du légalisme. Philippiens 3, 6, Paul, il parle de lui-même, puis il dit, « Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. » Et ils vont donc se servir de leur justice propre. Est-ce que c'est sale ou c'est propre? C'est une justice propre qui est sale. Parce que dans le fond, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont tenté d'établir leur propre justice, Paul va nous dire dans un autre passage. Mais aujourd'hui, le passage qu'on va lire nous parle du zèle. Dans Galates 4, au verset 17, qui est un petit peu au centre de ce qu'on est en train d'étudier, Paul dit « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien ». Le mot pour zèle, c'est zélo. Et dans l'original, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire des efforts vers quelque chose ou envers quelque chose. Ça veut dire désirer ardemment quelque chose. C'est beau. Paul dit, c'est beau de désirer ardemment quelque chose de bien. Hein? C'est beau d'avoir quelque chose, d'avoir un désir ardemment pour quelque chose qui est bien. C'est beau de voir qu'une personne désire quelque chose de bien. On va parler de deux types de zèle. Hein? Il y a deux formes de zèle, mais les deux servent la chair. C'est ce que je veux qu'on voit ensemble, c'est qu'il y en a un qui est un zèle pour soi, et il y en a un autre qui est un mauvais zèle pour Dieu. C'est la justice propre. C'est d'élever toutes sortes de standards qui viennent placer qui viennent se mettre entre nous et Dieu, et les deux servent la chair. Une personne qui est zélée pour soi, c'est une personne qui va se servir elle-même, qui va servir la création plutôt que le Créateur. Elle va vouloir jouir de la vie, mais ne veut pas tenir compte des comptes à rendre. Hein? Tandis que pour le mauvais zèle pour Dieu, que j'ai cité avant, c'est une personne qui sert Dieu, mais dans une justice propre, et elle met un enfer sur ses propres mérites. Elle pense qu'après avoir atteint ceci ou cela, après avoir fait ceci ou cela, elle va se présenter dans ses propres mérites devant Dieu, puis Dieu va l'accepter dans sa justice à lui plutôt que dans la justice d'un autre. Elle ne tient pas compte du verdict de culpabilité. Même si Dieu dit « Hey, l'homme, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Oui, mais regarde, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Cette personne-là ne tient pas compte du verdict de culpabilité. Ça place les deux personnes, ça les place devant, dans une confiance dans leur propre chair. Un, dans ses propres mérites, l'autre s'en fout de ses mérites. Lui, il veut juste vivre sa vie, il veut juste comme s'épanouir dans le monde, puis il ne veut pas avoir à rendre des comptes à un créateur. Et ça place donc ces deux formes de zèle-là, donc nous sommes tous zélés pour quelque chose, hein, dans un besoin commun qui est connaître ce que Jésus-Christ a fait à la croix, puis entrer dans une relation avec Dieu par la justice qui a été acquise à la croix et le servir, lui, plutôt que ma propre chair, plutôt que la gratification de ma chair. Le servir lui, plutôt que d'essayer de me servir pour paraître dans mes propres mérites, le servir lui, plutôt que de vivre juste pour moi-même dans ce monde. Et donc, c'est le même besoin, et ça met la table aujourd'hui, ça, là, cette diapo-là met la table pour comprendre le texte qu'on va voir aujourd'hui. Concernant celui-là ici, qui est charnel, parce qu'il met sa confiance dans sa propre chair pour paraître juste devant Dieu. Paul dit dans Romains 10, 1 à 4, il dit « Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient et qui reçoivent la justice. » Donc, le besoin commun, ignorant la justice, ici, hein, la justice acquise à la croix, ils établissent leur propre justice. Ils ont besoin de comprendre ça. Les Galates ont perdu leurs ailes. Ça fait 3-4 ans qui ont accepté le Seigneur, gros max. Et déjà, ils ont perdu leur feu du départ. Et le verset 12, on va lire à partir du verset 12, et là, on rentre dans notre texte qu'on étudie aujourd'hui. On va aller 4-12. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Dans l'original, ce n'est pas écrit au présent. C'est « soyez comme j'étais ». Car je suis, hein, « soyez, excuse-moi, je vais le lire ici, « soyez comme moi, car j'ai été comme vous ». C'est ça que le texte dit. Et Paul, il réfère ici à avant. Avant, il était comme eux, c'est-à-dire qu'il cherchait à être justifié par Dieu par les œuvres de la loi. OK? Fait qu'il dit « soyez comme moi, comme j'ai été pour vous ». Avant, j'étais ça. C'est ça que je faisais. J'essayais de plaire à Dieu par mes propres œuvres. Maintenant, c'est plus ça. J'ai été trouvé par Christ. J'ai trouvé Jésus-Christ. J'ai trouvé la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Soyez maintenant comme moi qui ai trouvé la justice en Christ. Parce qu'avant, j'étais comme vous. J'ai été comme vous. Donc, avant, il cherchait à plaire à Dieu dans un zèle excessif pour la tradition de ses pères. Puis il leur dit, « Soyez comme moi parce que j'ai trouvé Christ, j'ai trouvé son œuvre à la croix et j'ai été présenté à Dieu dans la justice de Jésus. » On lit le verset 13 à 14. Et là, Paul fait souvent ça. Il fait un « rewind », recule dans le temps, puis il les ramène au moment où la personne a vécu quelque chose avec Dieu. Et c'est la même chose pour nous aussi, même dans l'Apocalypse. Il va nous dire, tu as abandonné ton premier amour. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Souviens-toi de tes premières œuvres. Souviens-toi de tes premières œuvres et fais-les à nouveau. Reconsacre-toi à nouveau comme tu avais l'habitude de le faire. Reviens à avant. Rappelle-toi quand tu as su que tes péchés avaient été pardonnés. Rappelle-toi que tu voulais vivre pour Jésus. Rappelle-toi de ce moment-là. Reviens, rewind un petit peu avant que tu te perdes, avant que tu perdes ton zèle, avant que tu deviennes comme las dans ta marche chrétienne. Reviens quand tu n'avais plus le goût de vivre puis que tu as trouvé un sens à ta vie à cause de Jésus-Christ. Reviens à cet endroit-là. Et Paul, c'est ça qu'il fait au verset 13. Il leur dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et était devenu... Attends, chapitre 4, ça va aller mieux. Vous m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile et mis à l'épreuve par ma chair. Vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. Paul, il avait été parmi eux, puis il aurait failli se faire tuer à quelques reprises. Il a fallu qu'on le fasse sortir en secret et tout ça. Mais il est resté un bout de temps dans son premier voyage missionnaire. Et il y a eu une infirmité des yeux. Je ne le laisserai pas trop longtemps parce que moi, je veux dire, j'avais mal au cœur en faisant le message sans regarder l'écran. Regardez-les pas, tu sais, je ne veux pas qu'on soit obligé de nettoyer le plancher. Mais il y avait ce que les Grecs connaissaient comme la ophtalmia, qui se trouve à être aujourd'hui une conjonctivite. Dans le fond, c'est les connus qui sont bloqués. Puis, bon, je le fais passer à d'autres choses. Okay. Il l'avait assez vu. Il dit, quand je suis venu vers vous, vous ne m'avez pas exprimé du dédain, hein? Comme ça devait, c'était sûrement pustulant, c'était quelque chose qui était pas beau. Mais il leur dit, on ne sait pas si c'est une infirmité qui date depuis longtemps au niveau de ses yeux. Dans 2 Corinthiens 12, il dit qu'il était affligé dans sa chair, puis c'était un mal qui ne disparaissait jamais. Est-ce que c'était un mal d'œil qu'il avait? Je ne sais pas. Par contre, au chapitre 6, verset 1, il dit, voyez de quelle grande lettre je vous écris. Comme s'il était aveugle ou comme si, tu sais, il fait des grosses lettres quand il écrivait. Hein? Donc, ils n'ont pas montré du dédain. Ils l'ont accueilli comme un ange de Dieu et il avait guéri un paralytique peu de temps avant. Est-ce que c'était à cause de ça? Est-ce que c'était à cause qu'il y avait justement la bonne nouvelle? Eux, ils étaient tellement dans les superstitions qu'ils croyaient peut-être que c'était un homme Dieu, tu sais. Puis ils l'ont accueilli comme un de ces dieux-là avec un petit dé, tu sais. Puis ils ont découvert en fait que c'était un ange, ou le mot ange veut dire aussi messager. En tout cas, une chose est certaine, il leur rappelle qu'ils avaient exprimé leurs sentiments d'une manière à le recevoir et n'a pas lui montré du dédain, puis ils l'ont reçu comme un messager qui venait de la part de Dieu. Il leur rappelle comment ils se sont consacrés à lui. Versets 15 à 16. Frères, je parle à la manière... je suis encore en chapitre 3. Ou donc à l'expression de votre bonheur. Et là, il leur dit, vous étiez tellement heureux quand je suis allé vous voir, tu sais. Il dit, où l'expression de votre bonheur? Je vous atteste que si cela aurait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Il y a un zèle qui s'est perdu. Il leur rappelle comment il était consacré à lui, comment il le recevait comme un ange de Dieu. Puis là, il leur dit, il leur pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que de ange, je passe à ennemi? Puis c'est quoi? Est-ce que c'est la vérité que je vous dis qui vous a influencé? Et donc, Paul veut montrer que nous sommes des personnes très influençables. On doit découvrir ça dès le début de notre vie chrétienne, qu'on va être influencé par une personne qui a un beau zèle pour le Seigneur. On va aller de l'avant avec le Seigneur. Puis on va être aussi zélé de façon mauvaise aussi si une personne a un mauvais zèle à côté de nous. Le verset 17 dit... Voici ce que j'entends. Ah, encore, chapitre 3. Parce que c'est une Bible que j'ai ramassée dans le vestiaire, hein? Parce que j'ai égaré ma belle Bible. Puis la seule version que j'avais, c'était la Sommeur. Puis je ne voulais pas parler avec la Sommeur, je voulais parler avec la Louis II. Je recommence. Verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous. Ah, là, il parle de d'autres personnes. Là, il parle du zèle que d'autres personnes ont. Ils ont pour vous. N'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle, c'est notre verset aujourd'hui, hein, pour ce qui est bien et en tout temps, mais non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit Paul, c'est un ami. Paul, c'est un ange de Dieu. C'est un messager de Dieu qui leur avait amené la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est devenu ennemi d'ange qu'il était. Pourtant, il a continué à parler sur le même message. Mais il dit pourquoi? Il dit il y a des gens qui se dévouent, qui sont consacrés, qui se donnent dans un zèle et un effort extraordinaire pour vous détacher de l'Évangile. Hein? C'est ça qu'il dit ici. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Et le mot zèle aussi, c'est zélo, ça parle aussi de la courtiser quelqu'un. Comme un amoureux courtise sa bien-aimée. Il dit, il vous courtise. Il dit, il n'y a pas de mal à courtiser en vue de ce qui est bien. Mais il dit, eux, ils veulent vous courtiser pour eux-mêmes. Et qu'est-ce que voulaient ces gens-là? Ils voulaient, ils avaient une cause, c'est que le judaïsme ne tombe pas en chute. Ils voulaient garder le monde dans le judaïsme, dans la religion d'avant, où on leur disait qu'on devait suivre la loi de Moïse pour être accepté. Hein? Et donc, ils avaient une partisanerie. Ils voulaient avoir du monde de leur côté. En fait, après qu'ils aient passé, si la personne n'était plus dans l'Église chrétienne, ils avaient gagné. C'était même pas de les ramener à la limite dans le judaïsme, c'était au moins que l'Église ne fleurisse pas à cause que le judaïsme perde des plumes à cause de ça. Et donc, ils avaient un esprit partisan, ils avaient une consécration, et même si la personne perdait son héritage en Christ, c'est-à-dire qu'elle perdait l'enseignement, elle perdait toutes les promesses de Dieu, mais eux, ils avaient gagné quelque chose. Et c'est pour ça qu'il va dire au chapitre 5, « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? » Et il va dire, « Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, et un peu de levain fait lever toute la pâte. » Un peu de fausse doctrine vient faire gonfler toute la patente. Et donc, comme je disais tantôt, tôt, très tôt dans notre vie chrétienne, on a besoin d'apprendre que notre zèle a un impact sur les autres. Pierre, quand son Seigneur s'est fait crucifier, il est retourné à la pêche, puis tous les disciples avec lui. On doit choisir aussi les gens qui nous influencent. Et tranquillement, se poser la question, est-ce que cette personne-là a une influence qui va m'amener dans un zèle pour Dieu? Quand Paul faisait la tournée, puis il se promenait d'église en église, il parlait en bien des Corinthiens. Il leur disait que les Corinthiens avaient ramassé de l'argent. Ils avaient décidé de donner de l'argent pour les pauvres de Jérusalem. Puis qu'à chaque semaine, ils ramasseraient de l'argent. Puis un peu plus tard, Paul reviendrait chercher cet argent-là et amènerait cet argent-là aux pauvres de Jérusalem. Et il écrit dans 2 Corinthiens 9, au verset 1, il leur dit, « Ah, en passant, c'est superflu que je vous écrive au sujet du service en faveur des saints. Je connais en effet votre bonne volonté et je m'en montre fier auprès des Macédoniens. Et j'affirme que l'Achaïe est prête depuis l'an dernier et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. » Paul dit, le zèle que les Corinthiens, vous avez à avoir décidé de mettre de l'argent qui est déjà prêt depuis l'année dernière, que je m'apprête à aller chercher. J'arrête pas de parler de vous autres, de dire comment je suis fier que vous ayez pris à cœur les pauvres qui sont à Jérusalem. Puis votre zèle en a stimulé la plupart d'entre eux. Et c'est vrai, ça. Votre marche pour Dieu est un encouragement pour les autres. Votre discipline à vous rassembler, votre discipline à étudier la Bible, votre discipline est un encouragement pour les autres qui sont autour de vous. OK. Dans le reste du passage, je ne vais pas le lire, mais c'est du 19 à 31. Paul va prendre l'image de ce qui s'est passé avec Abraham quand Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnerait un fils dans son vieil âge, puis que Dieu tardait à lui donner la promesse. Je le résume un petit peu. Dieu promet que Dieu va bénir toutes les nations au travers de sa progéniture, et Abraham aurait un fils, que ce fils-là aurait une descendance, et la descendance au singulier, ce serait par elle que toutes les nations de la terre seraient bénies, et la descendance au singulier, c'était Jésus-Christ qui est un descendant d'Abraham. Grosso modo, le chapitre 3, il parle de ça beaucoup. Mais là, il revient avec l'idée d'Abraham, puis il dit, à un moment donné, Abraham, ben, c'est pas comme ça que le texte le dit, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Quand on lit dans Genèse, la promesse n'arrivait pas. Puis à un moment donné, Abraham s'est impatienté, puis sa femme, Sarah, lui a dit, « Pourquoi tu ne couches pas avec Agar? » Et là, il y a eu un fils dans l'impatience, un fils dans la chair. Et Paul va dire, il y a un fils dans la chair, puis il y a un fils dans la promesse. Puis il va comme comparer les deux, puis il va prendre une valeur d'allégorie, c'est-à-dire qu'il voit dans ça une image qui illustre quelque chose une vérité qu'on trouve partout dans les Écritures. C'est que il y a un fils qui est de la chair, puis il y a un fils qui est « je vais faire quelque chose pour Dieu, je vais aider Dieu, hein, parce que Dieu n'est pas comme il est pas au rendez-vous. » Et l'autre, c'est le fils de la promesse, c'est lui qui est arrivé éventuellement à être celui que Dieu, par qui Dieu allait passer la descendance. Puis, il s'est passé quoi? À partir du moment où il y a eu une impatience, puis qu'il y a eu une consécration selon la chair, on pourrait dire, ou ce que lui a couché avec Agar, il s'est passé qu'encore aujourd'hui, ce qui fait les actualités, c'est une rivalité entre le peuple arabe et le peuple juif, n'est-ce pas? Si vous écoutez les nouvelles juste un peu, vous allez être d'accord avec moi que ça brasse en temps entre ces deux nations-là. Et c'est le début des conflits, et la descendance arabe serait un homme de guerre envers la descendance promise. Et il y aurait une guerre entre les deux. Puis Paul, il utilise cette histoire-là, puis dans le fond, ce qu'il nous montre là-dedans, c'est qu'il y en a un qui est le résultat des efforts, et donc il se ressemble plus au mont Sinaï. Il dit, c'est quoi le mont Sinaï? C'est l'endroit où on a reçu la loi. Et c'est où ce qu'on a dit à Dieu? Hey, oui, Dieu, on va te faire ça. On va faire ça. Oui, 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 on va faire ça. C'est les résultats de l'œuvre de la chair. Tandis que l'autre, c'est la Sion qui vient d'en haut. C'est la nouvelle cité. Il va dire, c'est la cité qui nous est promise. Et là, il va comparer le Fils promis à la cité qui nous est promise, nous qui sommes croyants, hein, la nouvelle Jérusalem. Et il va dire, il y en a un, c'est la montagne de feu où si tu ne fais pas ça, tu vas être condamné. Puis il y en a un autre, c'est ce qui est promis à ceux qui croient. Point. Et il va comparer les deux. Il y en a un qui est le résultat de l'effort et aussi qui va amener la guerre entre celui qui a reçu les promesses et celui qui fait des efforts. C'est pas dur quand même. Celui qui pense qu'il peut se présenter devant Dieu dans des mérites va finir éventuellement par devenir prétentieux envers ceux qui ne sont pas aussi bons que lui. Comme, par exemple, « Merci Seigneur que je ne sois pas aussi mauvais que lui. » Moi, je jeûne deux fois par semaine, pas lui. Moi, ça fait 25 ans que je suis marié puis je n'ai jamais trompé ma femme. Regarde lui, il n'est même pas marié. Regarde sa vie, regarde sa débauche, tu sais. Le bien qu'un homme accumule devant Dieu, c'est une consécration envers lui-même, va devenir une quoi? Un mépris envers celui qui ne fait pas comme lui. Hein? Tandis que celui qui reçoit la justice de Christ à la croix, il dit, hey, j'étais vraiment perdu, moi, là. J'avais besoin d'être sauvé. L'autre qui est là, qui se frappe la poitrine, puis il dit, hey, sois apaisé envers moi, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Il n'est pas en train de se comparer aux autres. Il réalise son besoin d'avoir le pardon. Et la seule réponse possible au cœur humain, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix pour lui. Et tout le texte continue, puis il dit, la montagne, il y en a une, c'est la montagne de feu, c'est la montagne de « je vais faire quelque chose pour Dieu ». Puis c'est comme si Dieu restait silencieux un peu, puis il allait voir qu'est-ce que l'homme allait faire. Hein? Puis à la croix, c'est l'homme qui reste silencieux et qui regarde ce que Dieu va faire. Complètement deux affaires différentes. Il y en a un à la montagne de feu, Dieu, il reste silencieux, il regarde qu'est-ce que l'homme va faire. Puis à la croix, c'est l'homme qui reste silencieux, puis il regarde qu'est-ce que Dieu va faire. La montagne de Sion, c'est pas qu'est-ce que nous, on va faire. Quand on va voir la Nouvelle Jérusalem descendre des cieux, où ce que le croyant va habiter éternellement, c'est l'homme qui se tait, puis qui regarde Dieu faire. Mais la loi a duré un certain moment pour nous amener tous à une évidence, et cette évidence-là, c'était qu'on est tous pécheurs, qu'on a tous besoin d'un sauveur. Et donc, il va faire ces deux comparaisons-là. C'est vraiment intéressant de voir ça. Puis il dit à la fin du passage, il dit, « Vous êtes fils de la promesse, parce que vous avez cru. » Hein? Les gens de Galate, contrairement à nous autres, ben non, pareil comme nous autres, ils étaient des idolâtres. Par contre, eux, ils adoraient pas, ils adoraient des vraies statues. Ils n'étaient pas des Juifs qui étaient sous la loi de Moïse. Nous non plus, on n'a jamais été sous la loi de Moïse. Mais ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves de ce qui avait dominé d'eux et c'était leurs idoles. Nous étions esclaves de quoi? De ce que nous adorions ou de ce que nous servions. Hein? parce qu'on on servait la créature ou on servait le Créateur. Et avant d'avoir connu Dieu, on servait la créature. Et il dit, et c'est là, regardez le verset, le dernier verset de chapitre 4, il dit, « C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Chapitre 4, verset 31. Donc avant, vous serviez des idoles, ou la création. Puis quand vous avez accepté Christ, vous avez arrêté de servir la création. Donc vous avez arrêté d'être esclave de l'idolâtrie. Puis vous êtes devenu libre. Libre de servir Dieu, libre d'être zélé pour Dieu. Hein? D'être un peuple qui lui appartienne, zélé pour lui, pour de bonnes œuvres. Et là, il va leur dire, regardez au chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Mais là, il passait d'esclave à des idoles à esclave à la montagne de Sinaï. Il devenait esclave. Hein? Il devenait d'esclave. Et Paul leur dit, « Hey, soyez comme moi, parce que j'ai été comme vous. » Il est en train littéralement de leur dire, « Vous êtes en train de redevenir esclave comme je l'étais avant, quand j'étais zélé, mais j'étais zélé pour ma propre chair. J'essayais de trouver en moi quelque chose qui plairait à Dieu. » Et il leur dit littéralement ici de ne pas se mettre sous la loi. On va clôturer le message avec, tourner dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre 1. De Pierre, chapitre 1. L'Apocalypse, il nous est dit, quand Dieu parle aux chrétiens qui se sont éloignés, il dit au chapitre 3, verset 19, « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Donc, il est demandé aux chrétiens d'exercer son zèle, d'exercer sa consécration, de se donner à quelque chose, puis de changer sa pensée. Pratique tes premières œuvres. Pourquoi il faut que la personne fasse une action et qu'elle ne change pas juste son intention? Parce que la consécration, parce que c'est relié littéralement à la foi. C'est-à-dire que ma consécration et ma foi sont tous les deux attachés ensemble. C'est que, repens-toi, change ta pensée, puis consacre-toi. En tout cas, je trouvais les explications. Vous avez le Saint-Esprit pour ça. Le passage est clair. Je finis avec ce passage-là. Donc, le passage, le nom de mon message, c'était Zélé. Puis, ça veut dire consacrer, ça veut dire se donner à quelque chose, s'attacher fermement à quelque chose. Et donc, on a quelque chose à faire. Et regardez au chapitre, dans 2 Pierre, chapitre 1, on parle ici, au verset 3, de sa divine puissance qui nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On pourrait quasiment dire ici consécration. Hein? Donc, la puissance de Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre une vie consacrée. On a tout ce qu'on a besoin. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On est dans un monde où l'homme se consacre à lui-même, puis le chrétien charnel fait la même chose. Il y a une corruption dans le monde parce que les hommes ont été appelés à servir le Créateur et ils sont corrompus parce qu'ils ont corrompu leur consécration en se consacrant à eux-mêmes. Mais on peut fuir cette corruption-là dans le monde à cause des grandes et plus précieuses promesses qui nous ont été faites et parce que Dieu nous fait participer à sa nature divine. Le passage, verset 5, il dit « Regardez la liste des choses qui doivent habiter en nous et qui doivent habiter abondamment. » Regardez, il y a peut-être une de ces choses-là qui fait défaut dans votre vie, qui fait que vous avez perdu votre consécration. Regardez la liste des choses qui sont là. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Il y a plein de choses que je ne peux pas rentrer nécessairement en explication de toutes ces choses-là. Beaucoup des mots peut-être que vous connaissez ou pas. Mais ici, il nous dit, faites vos efforts pour joindre ces choses-là. La connaissance, la vertu. Ensuite, on a la foi, la connaissance ou la science, la tempérance, contrôle de soi, la patience. Abraham s'est consacré à la chair parce qu'il n'avait pas attendu que Dieu lui donne son fils. Il est allé en chercher un, il a couché avec Agar. Hein? La patience, la piété. La piété, l'amour fraternel. Ils veulent vous détacher de nous. C'est ça que le texte disait tantôt. Qu'est-ce qui arrivait aux chrétiens de Galate? Ils quittaient l'Église chrétienne. Qu'est-ce qui se passait? Ils perdaient la communion avec le corps de Christ. Et pourtant, il y a des gens qui étaient très zélés pour eux, mais ils les ont détachés de la communion fraternelle. Donc, la communion fraternelle, la discipline de se rassembler souvent avec nos frères, hein, à la charité. Et regarde le passage 8, il dit « Si ces choses sont en vous et qu'ils y sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça revient à ce que vous avez dit en introduction avec la pluie, ce que Ben a parlé de la pluie, là, puisque aussi Gilles a parlé sur cultiver son champ afin d'en manger des fruits. C'est qu'une vie consacrée, ça demande à une personne de rester consacrée. Puis d'ajouter ces choses-là dans sa vie, afin de ne pas être sans fruit. Mais il dit, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, ne voit point de loin, et il a mis en oubli la purification de ses péchés. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Cette parole qui nous dit, Seigneur, de ne pas être paresseux, mais de servir le Seigneur avec zèle, dans Romains 12. Cette parole qui nous dit que tu t'es racheté un peuple qui soit zélé pour toi, zélé pour te connaître, zélé pour la communion fraternelle, zélé pour la piété, c'est-à-dire la prière, la lecture, servir Dieu, le connaître, prendre notre place dans le corps de Christ. Tu t'es racheté un peuple qui t'appartienne et qui est zélé pour toi. On a vu dans le message ce matin, Seigneur Dieu, que quand on n'est pas zélé pour toi, on est zélé pour quelque chose. On est zélé et consacré à la création ou au Créateur. Seigneur, tu dis dans Apocalypse 3:18, « Aie donc du zèle et repens-toi. » Ailleurs, tu dis « Pratique tes premières œuvres. » Seigneur, on doit avouer que dès le début de notre vie chrétienne, on est influençable par ceux qui te servent, ceux qui se consacrent. Mais on peut aussi être influençable par ceux qui vivent leur vie pour servir la création. Ils veulent jouir de la vie, ils veulent préparer leur retraite seulement. Il n'y a pas rien de mal à préparer sa retraite. Mais quand il y a juste ça, est-ce que nous, on devrait être influencés par ça? Seigneur, je prie que ce soit la position en Christ qui nous motive. Qu'on sache, Seigneur Dieu, comme les Galates avaient perdu de vue, que c'est ce qui nous fait paraître juste devant toi, c'est la croix de Jésus. s'il y a quelqu'un ici ce matin qui entend cet enregistrement-là, et puis que peut-être jusqu'à présent, tu as pensé que si on faisait quelque chose pour Dieu, Dieu en serait satisfait et que sa justice serait satisfaite parce que tu as atteint un certain niveau de justice, une certaine bonté morale. La plupart des gens pensent que s'ils sont des bonnes personnes, Dieu va les laisser rentrer au ciel. Crois-tu que tu as atteint assez de bonté? Crois-tu que tu es assez bon pour être accepté par Dieu? La Bible dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Y a-t-il quelque chose de bon, de très bon que tu aies fait qui te fasse sortir de ce groupe, de tous? Sinon, la Bible a dit que tous, Christ est mort pour tous, afin que ceux qui croient en lui puissent être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés d'être séparés d'avec Dieu pour l'éternité, en tout cas séparés de la manifestation de son amour et de sa grâce. Si tu veux accepter qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix, tu dois le comprendre. D'abord, il a pris ton péché, tes péchés au singulier. Il est mort pour la dette que tu allais encourir tout au long de ta vie par le péché. Il a payé une dette illimitée. Et ce paiement-là à la croix, à la fin, lorsqu'il est mort, il a dit « tout est payé ». Dans l'original, c'est « tétélestai », c'est l'expression qu'on disait lorsque quelque chose avait été payé au marché. Il a crié « tétélestai », « tout est payé ». Tes péchés ont été payés, ta dette a été complètement essuyée. Et si tu acceptes que cela a été fait, ça va être mis à ton compte. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de croire que Jésus est Dieu, venu vivre parmi les hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé la dette de ton péché pour te préparer une place au ciel, dans la nouvelle Jérusalem. Devenir un fils ou une fille de la promesse, c'est quoi? C'est d'accepter que cette nouvelle Jérusalem qui va descendre des cieux, dans une nouvelle terre et de nouveaux cieux, ça va être un endroit qui va être offert pour ceux qui ont cru simplement. Et aujourd'hui, donc, tu n'as pas performé. Tu as juste besoin d'accepter l'acte légal de la mort de Jésus sur la croix. Si tu veux faire ça, répète cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin d'être pardonné. J'ai entendu que sur la croix, tu es mort pour moi, pour être puni pour mes péchés. Que tu es ressuscité des morts pour me préparer une place que tu m'offres comme un don gratuit. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, que vous avez cru que Jésus est Dieu et qu'il est mort sur la croix et ressuscité pour vous, la Bible dit que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Réjouissez-vous en lui. Joignez-vous à une église. Allez à un endroit où ce qu'on enseigne la Bible. Pas la justice par les œuvres, mais la justice par Jésus-Christ. Trouvez-vous une église, puis ajoutez la communion fraternelle dans vos vies. Puis au fur et à mesure que vous lisez la Bible, commencez à vous consacrer, puis mettez en pratique les enseignements du Nouveau Testament, qui sont la règle de vie pour les croyants. Si vous avez des questions, tournez-vous vers un chrétien qui a plus d'âge que vous, peut-être. Posez des questions. Laissez-vous enseigner dans le cadre d'une église. Puis consacrez-vous à rentrer dans une église où ce que vous pouvez aussi servir, puis donner vos vies pour votre Sauveur. Et chacun d'entre nous, je ne sais pas, il est où votre zèle. Peut-être vous êtes ici puis vous réalisez que vous vous êtes consacré à la création plutôt qu'au Créateur. Et vous avez besoin de juste vous repentir et de dire, je constate que je suis le Dieu de ma vie et j'ai besoin de me repentir, de changer ma pensée et repratiquer mes premières œuvres. Remettre mon nez dans ma Bible. Remettre mes genoux sur le plancher. Me rappeler quand j'ai découvert l'amour de Jésus, voulais pas que ça finisse. Les réunions étaient jamais trop longues. J'écoutais de la musique dans ma chambre à coucher, puis je me mettais à genoux, puis je priais, puis je me lassais pas. Je lisais, j'avais plein de questions, mais j'arrêtais pas, je posais mes questions. J'avais faim et soif, et j'étais rassasié par la Bible, j'étais rassasié par mon Dieu. Vous avez besoin de juste vous remettre à faire ces choses-là. Changer votre pensée. Peut-être que vous êtes comme Abraham et Sarah, puis que vous attendiez la promesse, puis vous avez perdu patience et vous avez arrêté de lutter. Vous avez arrêté de persévérer. C'est votre zèle qui va vous permettre d'avoir ce qui a été promis, les promesses de Dieu. Peut-être que vous avez arrêté justement de croire aux promesses ou chercher les promesses de Dieu dans la Bible, puis vous avez mis un plan en action. Et ce plan-là, c'est peut-être un plan de chair. Vous êtes y allé avec vos propres forces. Vous avez besoin de vous repentir et dire, je reconnais que j'ai fait ça. Puis je veux me consacrer à nouveau à mon Dieu. Vous êtes aussi peut-être dans une saison où vous avez vécu un débalancement. Moi, j'en suis dans un. Je dors partout, je dors tout le temps. J'ai donné énormément de consécration à mes études ces dernières semaines. Puis là, je dors partout, je dors tout le temps. Mais ces saisons-là, c'est pas la vie. Si vous avez mis, comme je le disais, on est préoccupé par nos maisons, on est préoccupé par notre école, on est préoccupé par quoi que ce soit. Si votre diète de la parole de Dieu a été réduite, changez votre pensée. Remettez la diète de la parole de Dieu dans vos vies. Reconsacrez-vous. Seigneur, merci pour ce rassemblement qu'on a eu ce matin. Et je te prie de bénir mes frères et sœurs. Seigneur, je te prie aussi pour Victoria et Eric qui vont partir, je pense, demain en avion. C'est la fête de Victoria aujourd'hui. Bénis-la, Seigneur Dieu. Protège-les aussi en avion. Protège-les au Mexique durant les deux prochaines semaines. Je te prie aussi pour nos malades, ceux qui souffrent dans leur corps, Seigneur Dieu. Je te prie pour une grâce spéciale sur eux, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui, peut-être les chrétiens qu'on connaît, qui ne sont pas dans aucune église, qui ont cessé d'écouter la parole, qui ont cessé de se consacrer à toi. Attire ces gens-là dans des églises locales, Seigneur. Attire-les au désert pour parler à leur cœur. Et comme disait Jérémie, fais-moi revenir et je reviendrai. Peut-être que c'est la seule chose qu'on est capable de faire, ou c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.